Philosophie de l'art par le père Philippe à Saint-Joseph, le 26 février 85.
Excusez-moi, ce matin je vous ai parlé qu'il ne fallait pas trop changer, vous voyez. Je croyais que c'était à 4 heures. J'avais complètement oublié. Alors, ce n'est pas un signe d'opposition du changement, n'est-ce pas ? Traduisez pas ça comme ça. Mais dites que c'est simplement les vieux chevaux, vous savez, tout le temps leur règlement. Les ornières dans lesquelles on est. Dans quelle mesure y a-t-il induction d'un principe en philosophie de l'art ? Pouvez-vous montrer comment s'organise toute la philosophie de l'art à partir de la découverte de ce principe ? C'est un petit peu extrinsèque à ce que nous voyons maintenant. Alors j'ai envie de laisser ça pour la goutte de lait. Si vous êtes d'accord ? C'est tout à fait ces choses qui sont bonnes à regarder. C'est très intéressant comme question, il faut le poser. Il faut se poser la question, parce que tant qu'on n'a pas vu l'organisation d'une philosophie, alors comme demain il y aura une goutte de lait, alors on verra ça demain. Et je continue avec vous de voir ce que c'est que l'inspiration. Et j'espère que vous découvrirez progressivement que peut-être que l'inspiration est source d'un principe. N'est-ce pas ? Parce qu'au fond c'est ça. Si il y a la découverte d'une idéal, qui est cause exemplaire. On est donc en présence, dans philosophie de l'art, d'un nouveau principe. L'œuvre ne peut pas être principe. Voyez, mettez comme ça, si vous voulez, pour que vous compreniez bien. Le bien commun, c'est un effet. L'œuvre, comme telle, c'est un résultat. C'est un effet. Le principe de la philosophie politique ne peut pas être le bien commun, il ne peut pas être l'œuvre. Un principe n'est pas un effet. L'effet est nécessairement quelque chose de second. Donc, il doit y avoir un principe comme exemplaire, l'idéal. Quand il s'agit de bien commun, quand il s'agit de bien commun, quel est le principe ? La loi, cause exemplaire. Vous voyez l'analogie qu'il y a entre les deux ? Il y a une analogie très curieuse entre les deux. Parce que nous sommes en présence de deux causes exemplaires. Mais l'une commande une philosophie et l'autre non. Pourquoi ? Parce que la loi, elle ne dépend pas d'une inspiration. Il faut se reposer. Quand on voit une loi, ce n'est pas une inspiration qui commande une loi. Qu'est-ce qui commande une loi ? La prudence. Qu'est-ce qui commande l'idéal de l'inspiration ? L'inspiration a une noblesse que n'a pas la prudence. La prudence, elle organise les moyens vis-à-vis de la fin. Elle donne un ordre. Et la loi exprime cet ordre. La loi, c'est exprimer comment je peux atteindre une fin. Donc, il y a une fin humaine. Et la fin humaine, c'est le bien commun, de fait. C'est le bien commun que je réalise. Et la loi exprime comment je peux atteindre ce bien commun. Il y a une loi, par exemple, si vous voulez prendre un exemple qui fait toujours, qui réchauffe les gens, n'est-ce pas ? Qui réchauffe les gens, c'est-à-dire qui réchauffe leur état passionnel politique, n'est-ce pas ? Plus de condamnation à mort. Pour le bien commun. La loi sur l'avortement, c'est une loi. Ce n'est pas une inspiration. Alors, vous comprenez, la prudence, elle est éclairée par quoi ? Par l'information. Demandez comment Simone Veil a édifié sa loi. Parce qu'elle a édifié la loi pour le bien commun. Alors il y a l'information. Il y a une information. Et cette information, quelquefois, sert de prudence. C'est pratiquement ce qui est arrivé à un test. On regarde le nombre de cas, l'information, et on se dit, bon, très bien. Et on ne regarde plus du tout la fin. Et on veut équilibrer. C'est très curieux, mais c'est très intéressant à ce point de vue-là. C'est toujours dans la mesure où on peut regarder la manière dont on procède pour juger, quand il s'agit d'un cas particulier, ou la manière dont on édifie une loi, on voit très bien qu'une véritable loi devrait être érigée par la prudence. Et que la plupart du temps, les lois juridiques aujourd'hui, ce n'est plus la prudence. C'est tout simplement, j'allais dire, officialiser, objectiver quelque chose qui se fait selon le caprice ordinaire de la plupart des gens. Mais on objectivise quelque chose que la plupart du temps les gens volent, les gens réalisent. Alors, il y a un vol commun, c'est pour ça que je dis ça. Vous objectivez dans cette circonstance, oui, c'est très bien. C'est plus la question de la fin. Ça, on le verra en termes, parce que c'est très significatif. Le jour où un pays édifie des lois qui ne regardent plus la finalité, et que le bien commun, par le fait même, disparaît, alors il n'y a plus qu'un équilibre et une harmonie. Tandis que ici, alors là, nous revenons, l'inspiration est source de l'idéal, et l'idéal est cause exemplaire. Étant donné que la cause, elle est une véritable cause exemplaire. Alors, cette cause exemplaire, par rapport à l'œuvre, l'œuvre est mesurée par la cause exemplaire. Le seul qui a le droit de juger l'œuvre, c'est l'artiste. C'est sûr, c'est le seul qui a le droit de dire oui, c'est conforme à ce que j'ai voulu. Celui qui est un critique d'art, grosse question. Y a-t-il des critiques d'art? Est-ce que ça existe, philosophiquement parlant? Ça existe, c'est évident, parce que dans les journaux, on le voit. Mais ça, c'est un fait. Mais est-ce que ça existe? Est-ce que je peux critiquer une œuvre d'art? Ou est-ce que je peux essayer de la comprendre et aider les gens à la comprendre? Y a-t-il une critique d'art? Quand vous critiquez un forgeron, je prends exprès un forgeron, parce qu'ils ont souvent l'irascible assez bien, quand vous trouvez de vrais forgerons, l'irascible assez fort. Quand vous critiquez un forgeron, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, il prend ses outils, il vous les met dans les mains, et vous faites-le. Quand vous critiquez un cuisinier, qui est vraiment un cuisinier, alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, allez, faites-le. Faites un gâteau meilleur que ce que j'ai fait. Alors, toute la communauté en profite, parce qu'il y a deux gâteaux. Faites un gâteau meilleur que ce que j'ai fait. Alors, à ce moment-là, vous pouvez me critiquer. Et au fond, ça, c'est le bon sens. J'ai le droit de critiquer quelqu'un si je fais mieux. Si je ne fais pas mieux, je n'ai pas le droit. Si je fais mieux, je suis cause exemplaire. Si je ne fais pas mieux, mais non, je n'ai pas le droit. J'ai le droit de dire, oh, ça ne me convient pas, mais pas la critique. Ça ne me convient pas. J'ai toujours le droit de dire, puisque des goûts et des couleurs, on ne discute pas, j'ai toujours le droit de dire, non, je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas cette œuvre-là. Ça, j'ai le droit de le dire. Ce n'est pas la peine de le dire, du reste, parce que si, 10 ans après, on déclare que c'est le chef-d'œuvre du temps, Vous êtes un imbécile de ne pas l'avoir compris. Donc, il vaut mieux vous taire. Il vaut mieux vous taire. C'est plus prudent. Mais vous avez tout à fait le droit de dire, je ne comprends pas. Tout à fait. On a parfaitement le droit de dire, je ne comprends pas. On ne peut pas imposer quelque chose qui est une œuvre d'art, vous voyez. On ne peut pas l'imposer. Ça, c'est quelque chose de particulier. Mais la critique, attention, je ne comprends pas. Parce qu'au fond, pour critiquer, il faut la cause exemplaire. Seul l'artiste comme tel a la cause exemplaire. Les autres, ils regardent de l'extérieur. C'est pour ça que je crois qu'au sens strict, il n'y a pas de critique d'art. Il n'y a pas de critique d'art. Non, c'est incritiquable l'art. C'est très curieux, ça. Mais je peux montrer. Alors, évidemment, la grosse critique, elle viendra tout simplement du fait que des quantités d'œuvres d'art, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'en parle plus. C'est le cimetière. Ça tombe. Les chefs-d'œuvre, remarquez que quelquefois, il y a des chefs-d'œuvre qui tombent et qui renaissent après. Chose très très curieuse, parce que ça c'est toujours la même chose, c'est que les goûts changent, et les styles changent, et quand on voit ce qu'on a pu faire de l'art roman dans une quantité d'églises, c'est effrayant, on n'a pas compris. Puis on a mis d'autres choses, on a mis des tas de choses supplémentaires au-dessus, pour faire du rococo, merveilleux, étonnant, parce qu'à ce moment-là c'était ça qu'on faisait, c'est le gâteau à la crème. C'est pour ça qu'on faisait, comme cela, le gâteau pour la mariée, tu vois, ce que ça représente. Alors c'était une chose qu'on en a ajouté. Alors ça peut arriver que certaines choses, on ne les comprend plus, et on les recomprend après. Il y a l'épreuve du temps. C'est vrai que c'est très difficile quand il s'agit de l'œuvre d'art. Moi, je crois qu'il y a des éducateurs, vous voyez, au point de vue philosophique, au point de vue, on peut aider à faire comprendre certaines choses. Aider, ouvrir. Alors, on pourrait dire qu'il y a la critique d'art, dans ce sens qu'on pourrait dire, oui, il y a des œuvres qui, vraiment, on ne peut pas les accepter. Mais ce n'est pas la peine de les critiquer, elles tombent elles-mêmes. C'est très, très mystérieux. C'est une question qui est intéressante à voir. Y a-t-il des critiques d'art? Moi, je me pose la question au point de vue philosophique. Il y en aura toujours, pour les journalistes, c'est évident, il y aura toujours page de critique d'art. Mais en réalité, si vous avez comme métier d'être critique d'art, c'est pas critiquer, c'est d'essayer de comprendre. C'est tout à fait différent. C'est presque un éducateur au niveau de la culture. Essayer de faire comprendre. Ou au contraire, essayer de faire que certaines choses, on dise non, vaut mieux pas. Pour éduquer. C'est pour ça que je dis éducateur du goût, éducateur de la manière d'apprécier. C'est autre chose que critiquer une œuvre. C'est essayer de voir comment je peux la saisir, où je peux la saisir. Alors, je reviens ici à la question posée. Vous voyez, la cause exemplaire, l'idéa et mesure. Or, la cause exemplaire comme mesure est un principe. Et c'est intéressant parce que ça me fait comprendre comment tout l'idéalisme et toute philosophie idéaliste, c'est toujours la recherche de la cause exemplaire. C'est toujours la recherche de l'idéal. Dans les idéologies, c'est l'idée qui est première. Comme dans la philosophie de l'art, c'est l'idée qui est première. Et donc, si la connaissance artistique est la connaissance tout court, la philosophie idéaliste est la seule. Subjectivité transcendantale, ce que je vous ai dit, de la naissance de l'idéal. Alors ça nous aide beaucoup à comprendre la place de la philosophie idéaliste. Mais on ne la rejette pas, la philosophie idéaliste. Elle a sa place, mais attention, dans une philosophie d'art, elle ne dit pas tout. Elle construit un monde. Quand je vois comment Platon construit la République, il l'a construit à partir d'une idée. C'est l'idée de la justice. Et cette idée de la justice dépend de la cause exemplaire, le bien. Et c'est à partir de là qu'il construit tout. Et donc il construit la politique, sa politique, comme un artiste construirait, un architecte construirait une maison idéale, Saint-Jean. C'est la manière dont il le construirait, pour essayer de bien voir tous les emplacements qu'il faut, et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est une cause exemplaire. Alors, continuons le grand sujet de l'inspiration. N'est-ce pas ? La voie dernière, je vous montrais donc les possibles. Et je vous disais, il fallait bien comprendre que le possible de l'idéal est quelque chose d'unique. Que ce possible possède en lui-même sa propre actuation. C'est peut-être ce qui caractérise ce possible. Platon a cette phrase très étonnante, hein, quand il compare l'inspiration au fait de secouer le grain de blé pour que les grains demeurent au milieu et que toutes les petites paillettes s'en aillent de côté. C'est une très belle image pour comprendre comment le possible artistique devient nécessaire. C'est le passage de l'inspiration, vous voyez, à la création artistique ou au choix créateur. Il y a un choix créateur qui s'impose. C'est pas du tout une élection. L'artiste ne fait pas une retraite pour savoir ce qu'il doit choisir. Non, ça s'impose à lui à un moment donné. Extrêmement curieux, extrêmement mystérieux ça. Comment le possible va devenir nécessaire. Donc du possible va naître le nécessaire. Et je crois que c'est ce qui caractérise ce possible. Et ce possible va devenir nécessaire. Comment comprendre ça? Philosophiquement parlant, ça c'est un fait. Tous les artistes le disent. Et si on a un tout petit peu un sens artistique, on a un peu un sens artistique, parce que quand vous devez faire une dissertation, vous quand même, vous réalisez quelque chose. Alors, il y a des dissertations que vous faites sans avoir aucune inspiration le jour de l'examen. C'est propre de certains. Ça. Il suffit qu'ils passent un examen pour qu'ils soient complètement inhibés. Ils viennent même bêtes. Tandis qu'au contraire, des gens qui voient beaucoup moins intelligents, le jour de l'examen, c'est le champagne. Alors, à ce moment-là, ça pétille, c'est extraordinaire. Ils disent des choses qu'ils ne diraient jamais autrement. Et on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais c'est curieux, ce point de vue, d'avoir découvert quelque chose qui permet de rédiger, de passer à l'exécution. Ça devient du nécessaire. Donc, quand vous avez une dissertation, à un moment donné, ça va très bien. Vous réalisez ça à toute vitesse, qu'il faut une nuit. Ah ben, pas pour vous. Non, ben, une nuit, on commence à rédiger, une fois qu'on a commencé à rédiger, on doit aller jusqu'au bout. Ça, c'est impossible autrement. C'est ça, on doit aller jusqu'au bout, on va jusqu'au bout, on rédige jusqu'au bout. Tandis qu'autrement, vous aviez pendant 8 jours, dire, que ça va pas, qu'est-ce qu'il y a qui va pas. Puis, tout d'un coup, il y a un déclic. On passe du possible au nécessaire. C'est très curieux, ça. C'est un phénomène très curieux. C'est incompréhensible, ça. Il y a un passage de quelque chose qui vous saisit, qui vous prend, et qui, à partir de là, fait que ça se déroule comme si, ça avait déjà été écrit. C'est pas écrit, c'est vous qui le faites. Ça s'écoule immédiatement. Alors, comment expliquer que le possible artistique de l'inspiration devient nécessaire? Et il faut bien qu'il vienne de nécessaire pour être une cause. Autrement, il ne serait pas cause. Il devient un principe. Pour être un principe, il faut nécessairement qu'il y ait quelque chose de nécessaire. Il devient point de départ d'un ordre. Lors de réalisation, ça se réalise. Et donc, on passe du possible au nécessaire. Alors, c'est, je crois, le caractère propre de ce possible. Et ça, ça nous aide à comprendre ce que c'est que l'inspiration. C'est un possible qui porte en lui, virtuellement, les capacités d'être réalisé. Et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec Maritain. Parce que c'est un point sur lequel Maritain, je crois, à Chopé, où il dit que l'inspiration est complètement séparée de la réalisation. Alors il parle d'une inspiration, d'une intuition poétique qui n'a rien du tout à voir avec la réalisation, alors que je crois que les deux sont intimement liés. Et que c'est à travers la réalisation que l'inspiration se précise constamment, et que les deux sont liés. Et c'est ce qui fait ce passage du possible au nécessaire. Oui, autrement, on aurait comme une intuition poétique qui serait ce qui est de plus merveilleux, qui regarde le beau transcendantal, dit Maritain. Je ne sais pas ce que c'est. qui regarde le beau transcendantal. Cette intuition regarde le beau transcendantal. Et puis là, il y a la techné. Alors il dit, les Grecs n'ont regardé que la techné. La techné, c'est-à-dire l'art au sens proprement d'Aristote, la réalisation. Alors on fait une coupure entre les deux. Alors que je crois que le propre de l'inspiration poétique, artistique, c'est justement d'être source d'une réalisation. Une inspiration demande d'être réalisée. Et si vous ne la réalisez pas, vous en êtes malade. Un artiste devient malade s'il ne réalise pas. Il doit réaliser. Et une fois qu'il a réalisé, même si ce n'est pas tout à fait fait, ça le soulage. Il a réalisé quelque chose. Et il doit le réaliser. Alors, c'est ce passage du possible au nécessaire qui fait comprendre comment ce possible porte en lui virtuellement d'être cause exemplaire. Ce possible porte en lui une virtualité. Au point de départ, ça n'y est pas, mais petit à petit, comment ça se fait? On constate les deux. Valéry dit ça admirablement. Il y a un passage dans Valéry qui est extraordinaire. Il dit, au point de départ de l'inspiration, il y a des possibilités d'aller à droite, à gauche. On est devant une espèce de possibilité multiple. C'est normal. Puis, soudainement, le nécessaire apparaît. Alors, le nécessaire fait que tous les autres possibles disparaissent, il n'y a plus qu'un qui... Phénomène très très curieux. De ces multiples possibles, il n'y en a plus qu'un qui demeure. Et celui-là s'impose. Et il ne s'impose pas de l'extérieur, il s'impose de l'intérieur. Il a tout polarisé. Et c'est vraiment ça, ce possible-là qui a tout polarisé et qui nous permet de comprendre le choix créateur. Et le choix créateur ne vient pas de l'extérieur comme si l'artiste pouvait choisir tel ou tel moyen. C'est quelque chose qui s'impose. C'est pour ça que d'une certaine manière, ce n'est pas un choix. Et pourtant, c'est un choix. C'est un choix d'une nature tout à fait particulière, la manière dont les artistes choisissent. Les artistes, ils choisissent pas du tout comme le choix prudentiel, c'est tout à fait autre chose. Le choix prudentiel demeure toujours quelque chose qui est un petit peu extérieur, vous voyez. Ceci nous fait comprendre cette fameuse parole que Maritain reprit, qui est de saint Thomas et qui est d'Aristote. Qui est une parole extrêmement intéressante parce qu'elle nous aide à comprendre la différence entre l'inspiration et la prudence, les voies déterminées de l'art et les voies indéterminées de la prudence. Quelqu'un qui est prudent, jusqu'à la dernière minute, il attend. Quand il est obligé de passer à l'exécution, il passe à l'exécution. Tandis qu'au contraire, l'artiste, lui, il est déterminé de l'intérieur ce possible qui devient nécessaire. Il est déterminé de l'intérieur pour réaliser telle chose. Et à ce moment-là, il n'y a plus possibilité de changer. Il doit réaliser. Oh, il pourra changer, si vous voulez, au cours de route, s'il y a telle ou telle petite chose difficile qui ne se réalise pas à cause de la matière. Vous voyez, ce que je vous disais, ce sculpteur au Solchoir, qui était un breton animalier et à qui on demande de faire une vierge. Alors, il était un petit peu en disant, il aimait beaucoup de le faire, mais il était habitué de faire des... Alors, un beau jour, je le voyais tout tremblant, n'est-ce pas ? Il y avait eu un éclat dans le granit. Et pourtant, il l'avait choisi. Il y avait un éclat imprévisible. Il avait réalisé son petit modèle, il avait réalisé la Vierge sur il avait fait en miniature, si vous voulez, comme un petit modèle qu'il avait lui-même construit. Puis il suivait ça avec beaucoup de liberté, du reste. Et là, on voyait bien que son inspiration se modifiait. Puis tout d'un coup, il y a un éclat sur le front. Après 5 mois de travail. tout tremblant. Puis le lendemain matin, je le revois. Il avait passé sa nuit à prier. Un bon breton. Il avait passé sa nuit à prier. Et alors, je le vois tout gai, recommençant à se mettre à travailler. Il dit, j'ai compris. Il dit, voyez, chez l'animalier, les animaux, c'est toujours un peu rigide à côté de la Vierge Marie. Et il y avait quelque chose de trop rigide. J'ai compris. Alors, voyez, après coup, c'est vraiment une inspiration qui vient après coup. C'est d'essayer, par le point de vue de la matière, qui s'impose quelquefois. On ne la domine pas totalement, la matière. La matière, elle est là, surtout quand il s'agit pour le sculpteur. Quelque chose qui s'impose brutalement, et il a compris à ce moment-là, il fallait modifier. Il était tout heureux, mais il fallait le comprendre de l'intérieur, parce que c'était de l'extérieur. Ce n'était pas l'inspiration. C'était au contraire quelque chose qui venait détruire son inspiration. Vous voyez, l'homme prudent agit tout à fait autrement. C'est tout à fait autre chose, l'homme prudent. L'homme prudent doit rester toujours déterminé par l'intention et puis les moyens jusqu'au bout. Tant qu'on n'est pas obligé de passer à l'exécution, on n'est pas entièrement déterminé. Les voies indéterminées de la prudence, ça c'est une chose très belle. Et les voies déterminées de l'art, c'est très intéressant à bien voir, parce que des gens qui sont très artistes, très facilement, il y a contamination, comprenez bien quand je dis contamination, hein, contamination de l'art sur la prudence. Et quelquefois, il y a l'inverse. Mais l'inverse, c'est rare. C'est très rare de voir la contamination de la prudence sur l'inspiration, parce qu'il n'y a plus rien. Un homme trop prudent n'a pas d'inspiration. C'est un être uniquement moral. Il n'a qu'un prudent. Il n'y a pas un peu d'inspiration. Il est exaspérant pour ceux qui ont de l'inspiration. C'est parce que c'est exaspérant, les voies indéterminées de la prudence, hein, et les voies déterminées de l'art. Oui, ce chose qu'on verra du reste, parce que c'est tellement, tellement joli comme chose, hein, le jugement de Machiavel sur Moïse. Si on dit que Moïse est un grand législateur, si j'avais été à sa place, on aurait traversé le désert beaucoup plus vite. C'est très extraordinaire, parce que c'est vraiment l'homme prudent, enfin, Moïse, l'homme prudent, d'une prudence de sagesse en dépendance de Dieu, l'ange qui conduit Moïse. Si Moïse avait été plus artiste, il aurait toujours dit ah non, la boussole, hein, c'est par là. Machiavel, qui ne sait pas du tout ce que c'est que d'être prudent et d'être sage par rapport à Dieu, c'est un artiste. Les voies déterminées de l'art. C'est pas un artiste, mais c'est un homme habile. C'est pas un homme virtuose, une virtuosité extraordinaire comme habileté. Alors on voit très bien les voies déterminées de l'art. Et les voies déterminées de l'art viennent quelquefois l'emporter sur la prudence. Alors on ne voit plus ça. Et alors on est déterminé absolument. Et pour un artiste, quand il a découvert un moyen qui s'impose, ce passage du possible au nécessaire, il n'y a plus que ce moyen. Et l'homme prudent à côté dit, mais non, il y en a d'autres, on pourrait regarder. Non. Parce que c'est celui qui s'est imposé. Et qui s'est imposé de l'intérieur. Là, il n'y en a plus qu'un. Un seul, il est pris par ça. C'est très beau. C'est le drame de l'artiste, ça. Parce qu'il n'y a que ce moyen, et si ce moyen disparaît, il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'à disparaître. Et c'est pour ça que l'homme prudent dira, mais tu n'as qu'à changer. Il y a d'autres moyens, mais sois calme, sois paisible, comme c'est pas ça qu'il faut regarder. L'homme prudent sera ça, sera le bon bourgeois, vous voyez, à côté de l'autre qui dit, mais non, il n'y a que ce moyen-là, il faut aller par là. L'art, l'inspiration vous donne une rectitude qui n'est pas du tout la même rectitude que la rectitude morale. C'est une autre rectitude. C'est la rectitude qui est commandée par l'idéal et commandée par l'œuvre. Tout est ordonné vers ça. Tout Tout est ordonné vers l'œuvre à réaliser. Donc, tout provient de l'inspiration. L'inspiration est source du possible. Et ce possible, subitement, s'impose comme du nécessaire. Parce que ce possible, à la différence des autres possibles, possède en lui-même une virtualité. C'est comme une semence, vous voyez ? C'est comme une semence qui possède des virtualités. Alors, comme il possède des virtualités, à un moment donné, ces virtualités éclosent. Alors, elles s'imposent. C'est pour ça que je dis que c'est comme une semence, un germe qui grandit par lui-même, une génération spontanée, hein, qui fait que progressivement, ce possible s'impose de l'intérieur et s'impose d'une manière telle qu'il n'y a rien d'autre. Et c'est à partir de là qu'on peut dire qu'on est en présence d'une cause exemplaire. Et que cette cause exemplaire est mesure de l'œuvre. De toute la réalisation, elle dirige toute la réalisation. Et elle est mesure de l'œuvre. Et c'est pour ça que l'artiste ne sera très rarement satisfait de l'œuvre. Là, évidemment, il y a des tempéraments différents d'artistes. Mais ordinairement, il ne sera pas satisfait. Parce que c'est très très rare que l'œuvre réalisera pleinement ce qu'il porte en lui. Et il le porte en lui. Même quand il l'a réalisé, il continue de porter en lui cette idée, cette cause exemplaire. Et alors, par rapport à cette cause exemplaire, l'œuvre ne sera pas exactement. Il devra l'accepter comme une chose qui n'est pas adéquate, qui n'est pas parfaite. Alors, celui qui est à côté de lui, un ami qui lui dit « Oh, c'est merveilleux, c'est étonnant ce que tu fais », lui dira pas du tout. Il a un autre point de vue, parce qu'il a le point de vue de celui qui réalise la chose. Et là, il a une exigence que les autres n'ont pas, forcément. L'ami, ou tout simplement le spectateur qui goûte cette œuvre d'art, il la juge comme quelque chose de nouveau, il n'a jamais vu ça, c'est merveilleux, c'est étonnant, ça me parle. Lui, l'artiste, a toujours la cause exemplaire en lui. Oui. Et c'est par cette cause exemplaire qu'il y a une possibilité de concevoir une vraie philosophie de l'art. S'il n'y avait pas de cause exemplaire, non, il n'y aurait pas. Oui, c'est pas un code de beauté, c'est pas une norme de beauté, c'est pas ça du tout. C'est l'inspiration qui est source de l'idéa. Et c'est l'inspiration qui est source de l'idéa qui donne cela. Ce n'est pas du tout ceux qui disent, voyez, voilà les normes de la beauté. Les normes de la beauté, alors on peut juger l'œuvre de l'extérieur en voyant est-ce que cette œuvre possède l'unité, est-ce que c'est... et ainsi de suite, hein, toutes les caractères particuliers. On peut faire ça, mais ça reste toujours, toujours quelque chose qui n'a qu'un intérêt très secondaire. Parce que justement, c'est une œuvre qu'on fait. Une œuvre qui doit dire quelque chose, qui doit exprimer quelque chose. La beauté vient ensuite. On ne fait pas quelque chose de beau. On fait une œuvre qui se tient, une œuvre qui s'organise en fonction de cette idée et de cette cause exemplaire. Mais c'est une œuvre qu'on réalise. Cette œuvre sera harmonieuse, elle aura une unité, elle aura une beauté que l'artiste découvrira comme son œuvre et qu'il critiquera aussi à cause de tel et tel événement, il n'a pas pu réaliser exactement ce qu'il voulait, à cause du peu de temps, il n'a pas pu réaliser pleinement ce qu'il voulait. Ils sont toujours de mauvaise humeur, les artistes, par rapport à leur œuvre. C'est très très rare que vous voyez un artiste qui trouve que c'est merveilleux son œuvre. Je vous ai déjà dit, Rouault brûlant 300 de ses tableaux. Il fallait entendre Rouault dire ça. Je l'ai entendu. Rouault brûlant 300 de ses tableaux. Et 10 ans après, on dira Rouault sadique, il a brûlé 300 de ses enfants. Et tout simplement, ça ne correspondait plus. Il ne pouvait plus les voir. C'était quelque chose qui ne pouvait plus. Il était breton, il ne faut pas l'oublier. Alors, il y avait ça chez lui. Alors, ça ne correspondait pas à ce qu'il voulait réaliser, quelque chose qui n'allait pas. C'est très important, ça, parce que ça fait comprendre ce que c'est que l'inspiration. L'inspiration est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui s'impose d'une manière très étonnante. Alors, inspiration et choix créateur. Je peux distinguer les deux moments, c'est le passage du possible au nécessaire. Alors, une grande question qui se pose maintenant, après avoir essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que l'inspiration, une connaissance d'un caractère tout à fait particulier, dont l'objet est donné par l'inspiration, par le sujet. Où donc il y a identification entre objet et sujet. La distinction objet et sujet s'identifie dans l'idéa et c'est ce qui fait la cause exemplaire. La distinction classique qu'on fait habituellement pour tout type de connaissance entre l'aspect objectif et l'aspect subjectif est subitement transcendée. Et c'est ce qui fait qu'on comprend si mal les artistes. On dit, oh, ce qu'ils sont vaniteux, ce qu'ils sont remplis d'eux, ils ne pensent qu'à eux, ils ne voient que tout dans leur point de vue. Mais ils ne peuvent pas faire autrement. C'est le propre de l'artiste. Il voit tout à travers son idée. Et s'il ne voyait pas à travers son idée, il ne serait pas artiste. Et il est implacable, parce que c'est normal, parce qu'il voit tout à travers son idée. C'est pour ça que quelquefois, ils sont si sévères vis-à-vis des autres artistes. C'est vrai que souvent, ils sont très sévères vis-à-vis des artistes qui sont différents, qui ont d'autres points de vue, d'autres regards, si vous voulez. Alors, une grande question qui va encore nous aider à comprendre ce que c'est que l'inspiration. D'où vient l'inspiration? Vous voyez, si du côté de l'objet, je ne peux pas dire grand-chose, puisque l'aspect formel de l'inspiration, je le retrouve dans l'œuvre. C'est l'œuvre qui me fera comprendre si tel artiste était inspiré ou pas. C'est l'œuvre qui l'a faite. Et c'est vrai qu'on verra ça tout de suite. On verra des œuvres où on sent qu'il y a une inspiration. Et il y a des œuvres, ça fait partie de l'école, vous savez, c'est ce qu'on dit habituellement. Ça fait partie de l'école. Autour de tel artiste, il y a eu toute une série de choses qui ont copié. Mais alors, il y a ce qui provient de l'artiste lui-même, qui est vraiment l'œuvre, et puis tout ce qui est l'école à côté. Les répétitions, les copies, toutes ces choses secondes, où l'inspiration disparaît complètement. Parce qu'on n'est plus relié à la source. Vous voyez ? On n'est plus relié à ça, comme une parole vivante. L'œuvre est une parole vivante. Elle est reliée à la source. C'est l'inspiration. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il y a école à côté, c'est une parole qui n'est plus vivante, parce qu'elle n'est plus liée à la source. C'est tous ceux qui ont copié, qui ont répété. Alors c'est des répétitions. Alors c'est plus lié à la source. Il y a quelque chose qui manque. Alors, d'où vient cette source d'inspiration? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont inspirés, des gens qui ne sont pas? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui ont le sens hein, de la chose, vraiment, qui sont inspirés, et puis d'autres qui ne le sont absolument pas? Ils auront beau travailler toute leur vie, avoir un métier extraordinaire, ils arriveront peut-être à être des virtuoses au point de vue du métier, mais ils ne seront pas inspirés. C'est une drôle de situation de laisser passer devant les gens inspirés. Et puis, les autres sont des manœuvres. Et dans l'œuvre d'art, ça me semble très net, oui. La distinction du maître et de l'esclave qu'on retrouve. Hein. D'une autre manière, le maître, c'est celui qui a l'inspiration. L'analogue à la violence. Celui qui l'a pas, ben, il copie. C'est un excellent copiste. Tout ce qu'on peut vous donner comme diplôme. Vous êtes un excellent copiste, mais vous n'arriverez jamais à réaliser une œuvre dans votre vie. Si ce n'est que si vous copiez des grandes œuvres, alors c'est déjà quelque chose. Ne ferez pas plus. L'exécution. On exécute. On exécute d'une façon très, très, avec beaucoup, beaucoup de métier, avec beaucoup de virtuosité, mais on exécute. Il y a des gens qui copient avec de l'inspiration. Ça peut arriver. Il faut une nouvelle œuvre, il faut quelque chose de nouveau. Mais normalement, ceux qui copient, ben ils copient. Donc, l'œuvre d'art sert de modèle et ne font que répéter. Voilà. Pour la virtuosité, il faut du métier. Pour la virtuosité, pas d'inspiration. Il faut une très grande humilité pour entrer dans quelque chose qui est fait et se mettre à l'école de ce qui est fait. Il faut une très grande humilité, ça c'est des serviteurs. Alors les qualités du serviteur, là je crois, existent exactement pour le virtuose comme pour le serviteur. Doux, fidèle, pauvre. Alors demandez-vous si le virtuose c'est vraiment ça, doux, fidèle, pauvre. C'est un serviteur. Un serviteur qui est tout entier tourné vers une réalisation particulière qu'il veut faire. Il veut réaliser ça. Mais l'inspiration, d'où ça vient? Alors, vous voyez, toutes les possibilités qui ont été émises, hein, c'est pas la peine de les revoir, toutes les possibilités. Ça vient des dieux, ça vient... C'est vrai qu'il y a une inspiration qui est divine. Ça peut très bien se faire. Il y a une inspiration qui peut être divine. Mais l'inspiration, normalement, reste une inspiration géniale. C'est-à-dire, c'est l'homme. C'est de l'homme. La musique qui vient d'Italie et qui vient des dieux, hein, vous savez bien. C'est la chose classique. De fait, l'inspiration vient de l'homme. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est inspiré et un autre ne l'est pas? Vous savez ce que disait Aristote à propos de l'intelligence? Il disait, pourquoi un homme est intelligent et l'autre ne l'est pas? C'est tout simplement la question des chairs molles. Carnes mollas. Je ne sais pas comment ça se dit en grec, mais ça doit se dire encore mieux. Mais en latin, la traduction vulgaire, c'est carnes mollas. C'est une question de sensibilité plus ou moins grande qui fait qu'un homme est plus intelligent que l'autre. Carnes mollas. Oui, à partir de là, on dit, ce vieux matérialiste qu'Aristote, il distingue les degrés d'intelligence en fonction du toucher. Du toucher plus ou moins fort. Vous savez, quelqu'un qui prend des plats chauds sans rien sentir. Carnes mollas, pas du tout, c'est de la pierre, ça, il n'y a pas de danger. Tandis que l'autre, on dirait, oh, attention, à peine, il sent tout. C'est très très joli. Alors, ce qui est vrai du nous est encore beaucoup plus vrai de l'inspiration. L'inspiration, c'est le lien, je crois qu'on peut dire ça, on va essayer de l'expliquer, c'est le lien de l'intelligence et de l'imagination. Et par l'imagination, de la sensibilité. Mais je dirais que c'est surtout le lien de l'intelligence et de l'imagination. Un homme inspiré, c'est un homme de grande imagination, mais pas n'importe quelle imagination, hein, faisons attention. L'imagination, c'est quelque chose de très spécial, parce que l'imagination aura des orientations très différentes selon l'apport de l'intelligence. C'est l'intelligence qui donne à l'imagination sa signification profonde. L'imagination, par elle-même, elle est anarchique. Elle va dans tous les sens. L'imagination, allant dans tous les sens, l'intelligence peut s'en servir de multiples manières. Eh bien, il y a une manière particulière dont l'intelligence se sert de l'imaginaire pour être source de l'inspiration. L'imagination créatrice. Vous savez, quand Bergson dit ça, parce que Bergson s'est posé la question, d'où vient l'inspiration? Alors il a dit, l'imagination créatrice. Bon, l'imagination créatrice, c'est pas ça, je crois. Il faut dire l'intelligence liée à l'imaginaire. Et pas n'importe quelle intelligence liée à l'imaginaire, mais c'est l'intelligence liée à l'imaginaire qui va expliquer comment il peut y avoir une source, quelque chose d'inédit qui apparaît subitement. Alors, on va essayer de comprendre ça, parce que je crois que c'est un peu l'hypothèse de recherche. Si vous voyez, Bergson, là, est très intéressant, parce qu'il met sur la piste en disant l'imagination créatrice. Mais comment l'imagination est-elle créatrice? Elle est créatrice grâce à l'intelligence. Et c'est pour ça que je remonte tout simplement à la source, à la cause. L'imagination créatrice, c'est l'intelligence liée à l'imaginaire. Alors ça, c'est vraiment la possibilité de comprendre, puisque nous verrons la fois prochaine, la possibilité de comprendre comment nous portons en nous une source qui ne jaillit pas tout le temps. Eh bien, Claudel disait, j'ouvre le robinet une heure par jour, et au bout d'une heure, je le ferme. Alors, il avait cet avantage, lui, qu'il pouvait ouvrir le robinet d'eau chaude, d'eau tiède et d'eau bouillante quand il le voulait. Ça explique beaucoup de choses. Tandis que normalement, l'artiste, lui, il ne peut pas commander à son imaginaire, à son inspiration. Il y a des jours de grâce et des jours beaucoup plus pénibles. Il attend, il secoue le panier. Mais il ne sait pas, c'est pas. Et puis certains jours, ça s'éveille. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.